Chers amis, je vais vous inviter à faire la lecture de l'Exode, il y a très longtemps l'Exode. C'était Moïse, c'était un peu le commencement de notre histoire, le commencement de l'histoire d'Israël, le commencement des croyants, le commencement d'une histoire qui n'est pas terminée. Exode, chapitre 17, verset 1er. Vous avez certainement un peu de connaissances sur l'histoire de l'Exode. Souvent, je dis, pour réveiller la mémoire, vous avez peut-être vu les 10 commandements. Ce film magnifique des années 50 ou 60 sur la sortie d'Égypte. Voilà. Un peuple emprisonné en Égypte, un peuple qui était persécuté, on tuait les petits-enfants. Esclaves, ils faisaient des briques. C'est un peu notre histoire, remarquez. On vit sur nos enfants des tragédies, on vit nous-mêmes des drames. C'est un peu l'histoire de l'humanité. Et puis, un homme est venu, envoyé par Dieu, il s'appelle Moïse. Et Moïse, avec la force de Dieu, l'amour de Dieu aussi, il a parlé à l'Égypte pour qu'elle desserre son étau de ce peuple esclave. Et Dieu a ouvert la mer Rouge, sont sortis d'Égypte vers une terre promise. Alors, on arrive au chapitre 17, quelques jours après la traversée de la mer Rouge, qui est quand même un grand événement où on a envie de dire, en lisant l'histoire de la mer Rouge, tout est beau, on entre dans un monde nouveau, il n'y aura plus de problèmes. Enfin, nous sommes heureux, pour toujours. Nos bonheurs sur terre sont toujours fragiles. Écoutez bien l'histoire, si vous avez la Bible, Exode 17, sinon vous écoutez, bien sûr. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Dieu conduit les opérations. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. C'est là que tout se complique. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel, c'est-à-dire Dieu ?» Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Regardez comme ils sont capables de changer, un peu comme nous, de changer. Dieu leur ouvre une porte et maintenant ils accusent Dieu. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Ce bâton qui avait servi à frapper le Nil, à frapper la terre d'Égypte, prend ce bâton, je dirais ce bâton de commandement de Dieu, de jugement de Dieu, ce bâton de puissance de Dieu. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, c'est quelque part près du Sinaï. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. L'histoire s'arrête là. Chers amis, cette histoire, je dois vous dire que elle peut résumer toute l'histoire de l'humanité. Elle peut résumer votre histoire, votre vie et la mienne. Vous savez que sur la Lune, on a retrouvé 5 traces humaines. 5. Et avec ces 5 petites traces humaines, on peut reconstituer l'humanité. On a retrouvé des pas, présence. On a retrouvé une écriture, des initiales d'un astronaute qui est allé sur la Lune, donc quelqu'un qui sait écrire. On a retrouvé une photo de famille, avec un père, une mère, des enfants. On a retrouvé un badge. Donc il y a de l'industrie, on est capable de créer. Et puis on a retrouvé la Bible. Et avec ces 5 petites choses, on peut dire que l'être humain est capable de créer des choses, il est capable d'écrire, il est capable d'avoir une famille, il est capable de marcher. Voilà, on reconstitue l'histoire avec des petites traces. Avec cette histoire de Réphidim, je pense qu'on peut reconstituer votre histoire. Le peuple est sorti d'Égypte. On a vraiment l'impression que maintenant, tout va aller bien. Ils sont sortis de l'affaire, ils ne pourront plus jamais revenir en arrière. La mer Rouge s'est refermée, c'est une histoire du passé, on n'en parle plus, tout est nouveau. Nos bonheurs sur terre sont fragiles. Et des histoires d'amour se sont parfois terminées dans des divorces dramatiques, dans des décès terrifiants, dans des séparations. Ce qu'on croyait beau par la venue d'un enfant peut se terminer dans le chagrin, la peine. Tout est fragile. Et le peuple d'Israël continue sa marche, content avec Dieu, et voilà qu'ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Nous, en Bretagne, on sait ce que c'est que l'eau. On ne sait pas ce que ça veut dire, sans eau. Ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de mare. Et on pourrait se demander, mais est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Est-ce que Dieu les a bien conduits? Qui est le coupable? Qui est le responsable? J'entends les gens, 90% des gens disent, tout ça c'est de la faute de Dieu. C'est de sa faute. Et là, les enfants d'Israël auraient pu se dire, mais Dieu se moque-t-il de nous? On est 2 millions de personnes avec des chèvres et des troupeaux et des brebis. Et on n'a pas d'eau. On se pose des questions sur le pourquoi tels événements nous arrivent, pourquoi échec avec les enfants, pourquoi le travail ne va pas, pourquoi la vie est si compliquée. Pourquoi Dieu permet-il? Vous n'avez jamais posé la question? Vous ne vous êtes pas posé la question? Alors, autre chose. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Égyptiens étaient tellement contents de les voir partir que les Égyptiens ont donné aux enfants d'Israël tout ce qu'ils voulaient. Vous voulez de l'or? En voilà. Vous voulez de l'argent? En voilà. Vous voulez des pierres précieuses? En voilà. Tout ce que vous voulez, mais partez d'ici. Ils sont sortis d'Égypte avec des trésors, de l'argent, de l'or. Dites donc, comme la vie est étrange. Les anciens esclaves, depuis 430 ans, esclaves dans la boue de l'Égypte, sont devenus des riches, avec de l'or et de l'argent. Mais Dieu va leur montrer qu'il leur manque quelque chose d'indispensable, qu'ils ne peuvent pas se payer eux-mêmes avec de l'argent. L'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, l'argent ne sert plus à rien. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des choses que on ne pourra pas s'offrir avec beaucoup d'argent, la santé. On ne pourra pas s'offrir l'amour si on n'a pas quelqu'un qui nous répond, l'amitié. L'argent ne peut pas acheter l'essentiel de l'existence. On peut s'acheter un repas, une voiture, une maison, mais pas l'essentiel. Donc l'eau leur manque. C'est comme si le Seigneur voulait leur dire et nous dire à nous aussi, l'essentiel de votre vie, vous devrez me le demander. Il faut aller le chercher chaque jour dans la main de Dieu. Vous avez des choses, mais l'essentiel, vous ne l'avez pas. Vous avez besoin de me le demander. Savez-vous que nous avons été créés pour avoir besoin de Dieu ? Exister, le mot exister veut dire venir de quelqu'un. On ne peut pas dire j'existe tout seul. Non, j'existe parce que je viens de quelqu'un. Je viens de parents, de grands-parents. Je me suis formé avec la famille, l'éducation. Nous avons besoin aussi de Dieu. Comme la fleur a besoin d'eau, j'ai besoin que Dieu me donne quelque chose. Alors Dieu les laisse aller dans un désert. Ils sont riches, mais Dieu voudrait leur dire, vous êtes libres, vous êtes riches, mais il vous manque l'essentiel. Ben oui, il y a des suicides de riches, il y a des dépressions nerveuses chez les plus grands, il y a des gens qui ne s'en sortent pas dans la vie. Ils ont tout, mais il leur manque l'essentiel, il leur manque l'eau. Alors Dieu les attend, Dieu va leur montrer, il leur donne, enfin il me donne dans cette histoire une belle leçon. Il les attend, mais eux, pendant qu'ils marchent, ils sont en colère. Ils contestent Moïse, ils contestent Dieu, ils murmurent, ils voudraient retourner en Égypte, ils voudraient changer, revenir au point zéro. Ils doutent de Dieu, ils ne font pas confiance à Dieu. C'est compliqué à l'être humain. Dieu leur donne tout, mais pour ce petit détail où Dieu va leur donner tout ce qu'ils ont besoin, ils ne font plus confiance à Dieu. Mais le Christ veut nous dire aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous cherchez, c'est moi qui vous le donnerai. Le plus important de votre vie, c'est moi qui le donne. Ce n'est pas vous qui le trouverez, vous-même, par votre industrie, votre intelligence. Alors, Dieu leur donne rendez-vous devant un rocher. Je ne pense pas que ce rocher faisait 30 cm. Moi, je crois qu'il faisait peut-être 300 mètres. C'était un rocher. On montait dessus. Un immense bloc de pierre, comme il en existe dans le désert du Sinaï. Et Dieu leur dit, je vous attends devant ce rocher. Oh, les jeunes ont dû dire, c'est ça la vie ? Un rocher sans arbres, sans fleurs, ça manque de gaieté quand même, ça manque de fête, ça manque de plaisir. Aujourd'hui, l'homme de la fête d'aujourd'hui, il se moque parce qu'il dit, mais dans votre religion, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à toucher. Alors, on s'est peut-être moqué devant ce rocher, mais Dieu leur dit, je vous attends devant le rocher. La Bible nous conduit devant un rocher. Vous le saviez ? Nos échecs nous conduisent devant le rocher. Les psaumes de la Bible, les apôtres, notre vie nous conduit tout doucement à ce rendez-vous avec Dieu devant un rocher. Que va faire Dieu ? Ils ont murmuré, ils ont dit, est-ce que Dieu est là, est-ce qu'il n'est pas là ? Mais Dieu ne va pas leur prouver qu'il existe. Dieu ne nous prouve pas qu'il existe. On m'a souvent dit, mais avez-vous une preuve que Dieu existe ? Non. Enfin, j'ai une preuve, mais je ne peux pas vous la donner. C'est un secret. C'est en moi. J'ai la preuve en moi, mais je ne peux pas vous la communiquer par une piqûre, un document. C'est une preuve, une conviction, une foi, une assurance, un témoignage que nous avons tous, que nous pouvons tous avoir, qui ne peut pas se communiquer aux autres. Ce n'est pas une preuve mathématique. Dieu ne va pas leur prouver qu'il existe. Il va leur prouver qui les aime. Les enfants d'Israël n'ont pas dit « Est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas ?» Ils ont dit « Est-ce que Dieu est avec nous ? Est-ce que Dieu est là ou pas là ? Est-ce qu'il est là ou pas là ?» Ils ne contestent pas que Dieu existe pas, existe, mais ils contestent surtout sur sa présence. Est-ce qu'il est avec nous ou pas ? Où est-il ? Alors, le Seigneur les conduit devant ce rocher. Que va-t-il se passer ? Dieu dit à Moïse, « Prends le bâton avec lequel tu as frappé l'Égypte avec toute la puissance que j'ai mis en toi et frappe le rocher. » On a du mal à comprendre tout. Hein. Dans la Bible, il y a des choses que l'intelligence ne suit pas et on a envie de sourire, remarquez. Les moqueurs, là, se privent pas, ils y vont. Ils sourient devant cette histoire de frapper un rocher pour abreuver 2 millions de personnes, des moutons, des bœufs, des chameaux. Ce que nous ne comprenons pas a toujours un sens avec Dieu. Dieu ne leur a pas dit que chacun creuse son puits, que chacun creuse sa petite religion personnelle, que chacun imagine sa religion et puis ça ira comme ça. La religion qui mène à Dieu, ce n'est pas une découverte qu'on fait, c'est une révélation. Ce n'est pas nous qui découvrons petit à petit, c'est Dieu qui vient. Ce n'est pas nous qui allons, c'est Lui qui vient. Alors, il n'a pas dit, vous creusez, puis vous verrez bien. Il y a 2000 religions dans le monde, alors vous creusez des puits. Non, tu frapperas le rocher. Ce qui veut dire que la vraie religion, si je peux dire ainsi, elle ne vient pas d'une recherche personnelle, elle vient d'une révélation de Dieu, elle vient d'une parole de Dieu. Tu frapperas le rocher. Est-ce qu'on peut casser un rocher avec un bâton ? Je n'ai pas l'impression. Le psaume nous dit, 78, il nous dit que quand Moïse a tapé sur le rocher, il y a eu de l'eau qui a coulé. Des torrents se sont répandus parce qu'il fallait nourrir des milliers de personnes. Des torrents d'eau se sont répandus. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui pour nous, nous amène au Nouveau Testament, nous amène à l'Évangile, nous amène à Jésus, aux apôtres. L'apôtre Saint Paul nous dit que ce rocher frappé, qui a pris un coup, boum, Moïse a frappé. C'est un homme qui était vigoureux avec son bâton. Ce rocher frappé, il représente le Christ frappé, le Christ crucifié, le Christ de la croix, le Christ offert au monde. Et même plus que ça, l'apôtre Paul, il nous dit que dans le désert, avant que le Christ vienne, le Christ qui est éternel, il était déjà avec les enfants d'Israël, invisible comme un rocher. Avant que Jésus vienne, il était déjà présent. Comme vous, comme moi, avant que je découvre le Christ marchait avec moi. J'ai été épargné plusieurs fois de la mort, d'accidents. Je ne savais pas qu'il était là, comme les enfants d'Israël ne savaient pas qu'il y avait le Christ comme un rocher qui les suivait. Savez-vous que quand le Christ est mort sur la croix, de l'eau est sortie de son côté, du sang est sorti et de l'eau. Et quand ce rocher a été frappé, de l'eau est sortie. Ce bâton de Moïse, je pense qu'on aurait pu craindre que Dieu dise à Moïse, tu vas frapper les enfants d'Israël, tu vas frapper devant eux pour leur dire, vous faites mal, vous n'avez pas confiance en moi. On aurait pu craindre le coup de bâton. Beaucoup de gens me disent, mais Dieu est un père fouettard, il comptabilise nos fautes, on ne pourra pas s'en sortir, il cherche la petite bête. On aurait pu penser que ce bâton de Moïse aurait frappé le peuple, mais il est tombé sur le rocher. La punition n'est pas tombée sur nous, elle est tombée sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur Jésus. Je méritais des réprimandes, je méritais la punition. Devant Dieu, je méritais la mort. Parce que devant Dieu, si grand, mes fautes sont odieuses. Mais la punition qui devait tomber sur moi, voilà qu'on me l'a dit, je l'ai lu, je l'ai entendu, elle est tombée sur Jésus. Afin que je ne sois pas puni, afin que je sois libre et que mon péché soit réglé et que tout soit ainsi effacé et que je puisse entrer blanchi, lavé, renouvelé, pardonné dans le royaume de Dieu. Dans la Bible, ce rocher frappé me fait penser à la générosité de Dieu qui, dans l'Évangile, va chercher le lépreux, va chercher l'enfant qui était atteint d'épilepsie, va chercher l'enfant qui était en train de mourir comme un fleuve de vie. Quand on frappe à la porte de Jésus, c'est toujours un fleuve de réconciliation, de réparation, un fleuve de lumière, un fleuve de bonheur. Les larmes sèchent, les cœurs sont consolés, les hommes et les femmes retrouvent leur raison d'être. L'aveugle de naissance retrouve sa vue. Le malheureux Bartimée retrouve aussi sa vue et court avec Jésus sur le chemin. Comme si le Christ laissait traverser à travers lui un fleuve d'amour généreux où personne ne peut être oublié. Tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui touchaient Jésus, tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris pour montrer le rocher, la source ouverte, c'est le Christ. Alors cette histoire, elle est pour nous dire, un rocher a été frappé. Ce n'est pas ce rocher du mont Sinaï, qu'importe, ce n'est pas ça. L'histoire, elle est pour nous dire, le vrai rocher qui a été frappé, afin que vous soyez désaltérés, afin qu'une eau pure coule dans votre âme et vous lave et vous régénère, ce vrai rocher, il s'appelle Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui. Et si vous allez à lui, vous ne comprendrez pas toujours tout. Frappe ce rocher, on ne comprend pas, mais vous verrez dans votre vie la vie régénérée. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, nous sommes tous devant le rocher d'Horeb. Nous avons des murmures au fond de nous, des incompréhensions, des tristesses. On ne comprend pas. On ne comprend pas quand on perd quelqu'un de cher, on ne comprend pas quand nos enfants ne s'en sortent pas, qu'ils sont bloqués, qu'ils sont malades, hospitalisés. On ne comprend pas tout ça. On ne comprend pas que la jeunesse soit fauchée, que le mal fasse tant de ravages, que le terrorisme menace la planète. On ne comprend pas. Mais il faut regarder à ce rocher qui donne la force, l'amour, le pardon, la grâce. Alors, que s'est-il passé? Il s'est passé que l'eau a coulé et que tout le monde s'est réjoui. Et tout le monde a bu à satiété et ils sont repartis dans la traversée du désert vers la terre promise. Mais vous me direz, ainsi, tout va bien, tout est fini. Quelques jours plus tard, ils ont été mordus par des serpents et ils ont encore murmuré. Ces serpents nous montrent toutes les blessures du chemin, tout ce qui mord l'être humain. Puis quelques jours plus tard, eh bien, ils ont eu des ennemis qui les ont attaqués. On ne s'en sort pas. On a l'impression que la vie, c'est un rebondissement permanent de difficultés, d'épreuves, de maladies, de tristesses, de chagrins, de deuil. Mais quelqu'un reste avec nous. Quand les serpents nous mordent, quand l'eau manque, quand la foi défaille, quand la vie chancelle, c'est Jésus, le rocher qui nous suit. Amen.